Et on se retrouve pour terminer cette semaine dans les rediffusions de La Tête au Carré. Deux nouveaux dossiers à redécouvrir ensemble dans un instant. Le premier concernera les accents régionaux. Le 4 février dernier, je recevais pour en parler le lexicographe Alain Rey et le chercheur en linguistique Philippe Boulat de Mareuil. Et puis le second dossier s'intéressera à Madame de Néandertal avec la préhistorienne Marilène Patoumatis et Pascal Leroy, auteur et éditrice, qui venait nous présenter un ouvrage très drôle sur le sujet. C'est Céline Hila qui réalise aujourd'hui l'émission.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama,
will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo
Figaro.
Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah! No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let him go!
Bismillah! We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
No, 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 no.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me.
So you think you can stop me and spit my eye out?
Bohemian Rhapsody et ses Queen, bien sûr, sur France Inter.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Il donne du piment à la langue française, de la musique aux mots, mais il suscite également beaucoup de préjugés, parfois des confusions. Les accents régionaux étaient au cœur de notre tête au carré en février dernier. Nous en parlions avec le lexicographe Alain Ray et le chercheur en linguistique Philippe Boula de Mareuil. Et nous avions écouté un premier accent pour commencer l'émission.
C'est souvent les gens qui viennent de l'étranger, ils disent aux Dauphinois, vous avez un accent. Attends, les Dauphinois, vous avez un accent. Mais des fois, je dis, mais attends, mais où t'as vu un accent? Mais Dauphinois, on parle normalement, les gens le comprennent. Voilà, ils comprennent. Et même n'importe quelle phrase en Dauphinois, hein, n'importe quelle phrase au hasard, tiens, sans fouiller, on était à la vogue, bon, on s'est même pu retrouver murgé patafiole à cause d'une chichole, et on a pris un gadin dans la gadouille, hein, on s'est appelé la tronche pétavinée, et un genou dépioté, malade à bias. Tout le monde a compris, et puis voilà, et puis c'est tout. Hein.
Voilà un comédien humoriste dauphinois, Papa Gali, pour démarrer cette conversation, cette discussion autour des accents régionaux avec Alain Ray et Philippe Boula de Mareuil. Alain Ray, lorsqu'on vous a proposé de participer à cette émission, vous nous avez répondu que la problématique des accents était certes passionnante, mais très complexe, parce qu'il y avait beaucoup de préjugés et de confusion autour de cette question. À quoi vous faites référence exactement?
Le concept d'accent, d'abord, est un concept qui est très peu scientifique, mais qui est énormément important sur le plan affectif et sur le plan social, parce qu'il donne lieu à des jugements et c'est un reflet d'une situation beaucoup plus générale qui est que les manières de parler ne sont pas les mêmes à l'intérieur d'une même langue. La langue est une abstraction alors que la réalité, c'est la parole individuelle. Mmh. Et la parole individuelle, on a toujours envie de la classer et de la juger. Et c'est cette pulsion classificatrice et hiérarchisante qui fait qu'on parle d'accent en général pour stigmatiser ceux qui parlent autrement que nous.
Ouais.
Et voilà, donc quand on parle de l'accent de la radio, de la télévision ou des médias, on pense que ceux qui s'y expriment n'ont pas d'accent, ce qui est évidemment faux. On a plus ou moins d'accent, on a des accents.
C'est-à-dire qu'on a tous un accent pour vous ?
On a tous un accent.
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, l'accent est un aspect phonétique, et ça c'est Philippe qui en parlera mieux que moi, mais aussi lexical, on vient de l'entendre, parce que le témoignage sur l'accent dauphinois était en fait un témoignage qui était plus lexical que phonétique, ou enfin disons les deux en tous les cas.
Philippe Boula de Mareuil, alors sur cette question, est-ce que nous avons effectivement tous un accent, et est-ce que dire que quelqu'un a un accent, c'est du racisme pour vous ?
En tout cas, je ne vais pas dire le contraire d'Alain Ray pour constater que les accents renvoient une réalité assez complexe, que c'est le mot accent appartient au langage courant. Mmh. Alors, faut-il le bannir de la langue? Je ne crois pas. Je pense que le naturel revient assez vite au galop dès lors que l'on adopte cette posture qui consiste à dire que les accents, ce sont toujours les autres qui les ont. Moi, je veux bien considérer que tout le monde a un accent. Si par là, on entend une façon particulière de parler une langue, hein, le mot accent dérive du latin ad cantum, qui veut dire pour le chant. Donc dans cette acception-là, oui, tout le monde a un accent. Mm-hmm. Maintenant, assez vite, derrière ce mot, il y a l'idée qu'on peut reconnaître l'origine de la personne qui parle, son pays au sens large, sa région, son milieu social. Et à cette aune-là, quand quelqu'un a une origine qu'on arrive mal à identifier, quand on est bien en peine de la qualifier même d'étrangère, eh bien, on dit qu'elle n'a pas d'accent. Et c'est cette façon de parler qui va représenter la norme, le standard qu'il convient de suivre.
Oui. C'est une notion assez délicate quand même, hein, de parler de normes en matière de linguistique.
Ah oui, mais c'est
il faut manier ça avec beaucoup
notion,
de précautions. Hein,
c'est
on est
une
d'accord.
notion indispensable, parce que pour transmettre une langue, il faut la transmettre sous une forme spécifique. Cette forme spécifique, c'est la norme. Vous savez, une langue comme le français ou l'anglais, c'est impossible de la définir de manière univoque, parce qu'il y a des normes différentes, et à côté des normes, il y a des usages qui sont spontanés et que la norme ne reconnaît ou ne reconnaît pas. Donc finalement, il y a toujours un jugement de valeur qui vient s'installer là-dedans. Donc c'est cet aspect-là que le mot accent met en valeur. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a les dérives.
C'est vrai. Et c'est vrai que dès qu'on parle d'accent, Philippe Boula de Mareuil, il y a cette notion de norme qui arrive aussi assez rapidement dans la discussion.
Oui, on peut distinguer peut-être deux normes. Il y a une norme statistique qui est établie par des faits quantifiables et une norme prescriptive érigée par une partie de la société comme le canon, ce qui est correct, qui est une construction sociale, qu'il est de bon ton de critiquer, peut-être de récuser cette notion-là. Je crois malgré tout qu'elle est nécessaire, que même si la prononciation est moins codifiée que l'écrit, le problème se pose dans les mêmes termes dès lors qu'il s'agit de déterminer quel français enseigner à des étrangers. On a besoin de repères, comme l'enseignant qui évalue ses élèves. Et la norme représente, à l'image des modèles pour la norme vestimentaire, une espèce de canon idéal. Peut-être qu'on ne rencontre pas dans la réalité.
Mais ce serait quoi alors, le maître étalon de la prononciation en matière d'accent, alors la norme?
Ben justement, je crois que c'est une idée qui est en train de s'éparpiller un petit peu. Il y a un livre récent d'un linguiste québécois, qui est un ami d'ailleurs, qui m'a absolument passionné, parce qu'il montre que l'accent québécois, pour lui, n'est pas un accent. Précisément, ce sont les Européens qui ont un accent, parce que l'accent québécois représente, dit-il, beaucoup plus la manière de prononcer de la fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe, c'est pas complètement faux, mais il fait un petit peu l'économie de l'influence de l'anglais qui est aussi très considérable sur le québécois. Mais je trouve très intéressant qu'on puisse considérer que ce que nous appelons un accent qui n'est pas régional, il est national, celui du Québec, peut être considéré comme la norme et que du coup, ce sont les Français, les Belges et les Suisses qui ont un accent.
D'ailleurs, les journalistes québécois qui parlent avec le français international dans les bulletins d'information du Québec sont ceux quasiment qui ont un accent par rapport aux Québécois pure souche.
Tout Québécois qui est capable de parler une langue plus neutre qui se rapproche de la norme européenne a plusieurs registres à sa disposition. Moi, j'ai eu mes études qui sont faites à Aix-en-Provence et ça me revient très facilement, ça m'est pas du tout difficile de prendre un accent à peu près normal du sud de la France. Ça, c'est facile pour moi. Et de toute façon, même quand je parle à la parisienne, je sais que j'ai un accent parce que je suis d'origine auvergnate et que je n'ai qu'un O et que je dis la rose et le dôme. Et ça, naturellement, pour dire la rose et le dôme, je suis obligé de me contraindre. Et je parle pointu, exactement comme ce que disaient les gens chez Pagnol quand ils accusaient M. Brun, qui était de Lyon, de parler pointu, alors que...
Donc ça veut dire, Philippe Boulan-Mareuil, qu'on peut adopter aussi de nouveaux accents en cours de route?
Par mimétisme, on peut, adopter certains traits de prononciation de façon plus ou moins consciente pour s'intégrer au sein d'un groupe ou, au contraire, peut abandonner son accent, peut-être pour passer plus inaperçu, se voir ouvrir plus de portes dans la vie professionnelle, parce que parfois certains accents ont mauvaise presse. Là, qu'on se comprenne bien, je ne défends pas un point de vue normativiste, je crois néanmoins qu'il faut reconnaître l'existence au moins implicite d'un standard qu'ensuite on peut critiquer, qui peut évoluer sous la pression du grand nombre ou d'un petit groupe dominant qui va dicter ses sensibilités esthétiques, mais que nier cette observation ne nous permet pas de bien comprendre l'asymétrie des rapports qui existent entre un centre et une périphérie et tous les mécanismes sociaux très complexes qui sont à l'œuvre.
Oui. Voilà. Oui, mais là aussi, il y a eu quand même un petit peu de délire là-dessus, surtout au XIXe siècle. Je fais allusion à la célèbre pièce Pygmalion de Bernard Shaw, où le personnage principal prétend reconnaître exactement le comté d'Angleterre ou d'Écosse ou du Pays de Galles, d'où vient la personne qui parle, alors que ce n'est pas du tout aussi simple, qu'il y a des interférences, des gens qui ont des expériences multiples à l'intérieur de communautés qui ont des accents différents, et qu'on peut changer d'accent au cours de sa vie, on peut perdre, on peut gagner, on peut en avoir plusieurs, on peut les choisir, on peut en avoir une stratégie, et ça, moi, ça m'a paru éclatant quand j'ai vu la manière dont des francophones européens, belges, suisses ou français, s'acclimataient à la norme québécoise. En 20 ou 30 ans, ils n'ont plus du tout la même manière de parler.
Alors, on va faire un petit quiz, justement, tous ensemble, et avec les auditeurs de La Tête au Carré. Violaine Ballet a sélectionné un certain nombre d'accents français. On va rester vraiment sur le territoire français, avec des accents, justement, qui sont issus de cette exposition, La Voix, l'expo qui parle, dont vous êtes occupé, justement, Philippe Boulan-Mareuil. Donc, je vous propose d'écouter un premier accent. Vous devriez, Philippe Boulan-Mareuil, le reconnaître assez rapidement. Et puis, quant à nous, on va jouer ensemble. Donc, voici le premier. Ça dure 12 secondes.
Quand ils ont vu qu'ils ont eu des réussites, là, ils sont devenus un peu jaloux. Et ce sont des merdes. On est chez nous, on a nos terres et on est en train de se les faire prendre par... Vous savez, il n'y a pas de secret. Hein.
Alors, premier accent. Pour vous, Alain Rey ?
Bon, je pense que c'est un accent avec un substrat occitan, mais c'est tout ce que je pourrais dire.
Ah, non. Philippe Boulan-Mareuil.
C'est un locuteur que j'ai enregistré à Cargèse, en Corse, qui présente quelques traits de prononciation qu'on peut retrouver effectivement dans le sud de la France, comme la neutralisation de l'opposition est, un secret là. Il y a par ailleurs un petit mouvement mélodique, une réussite, qui est assez caractéristique de certains... accent corse.
Alors justement, ça va se corser un petit peu tout de suite avec un nouvel accent à l'arrêt. On l'écoute ensemble avec les auditeurs de la Tête au Carré. Ça dure 10 secondes. On va essayer de découvrir la région auquel appartient cet accent.
Cette année, oui, vous êtes en première. Donc je serai un peu plus difficile, un peu plus rude en notation. Oui, mais alors l'enseignement, je vous assure, il n'est pas là.
Alors,
ah non, là, je dois dire que...
Il n'est pas simple, celui-là.
Il n'est pas simple, oui.
Il est un petit peu compliqué, parce que c'est sur la fin de la phrase, effectivement, que commence à se révéler cet accent.
Je pense que le phonéticien sera plus à même que moi, qui ne suis pas phonéticien.
Alors, la réponse, Philippe Boulat de Mareuil.
Alors, c'est une locutrice de Normandie, là, qui est en plus dans du discours rapporté, qui prononce là des A... D'arrière, pas là. Mais je vous accorderai que ce trait de prononciation, on peut le retrouver dans d'autres régions de France.
Il y a une question de Christelle, ou plutôt un témoignage. Je suis tourangelle et il paraît qu'en région centre, nous n'avons pas d'accent et que nous prononçons les mots tels qu'ils doivent être dits. Alors, on dit souvent que vraiment la norme, la neutralité la plus totale. Et ça remonte à quand, cette histoire, Alain Rey ?
Ça remonte à la Renaissance. C'est très exactement au moment où les rois se sont installés sur les rives de la Loire et où la Renaissance a été la célébration de la langue française avec du Bellay à Liré, avec Ronsard, avec tous les gens de la Pléiade. Et à partir de ce moment-là, il y a eu cette idée qui n'est pas totalement une légende, qu'il y a un français très, disons, neutre ou normal. Mais comme on vient de rappeler avec justesse qu'il y a deux façons de considérer la norme, soit la majorité, soit ce qui est considéré comme le meilleur. Et c'est de ça que nous parlons maintenant. Parce que
la neutralité, peut-être, est plus simple, en tout cas.
Oui, on prétend que c'est une neutralité. Moi, je trouve que c'est un abâtardissement, parce que j'ai toujours pensé que la façon dont nous avons appris à parler, les uns et les autres, en tous les cas en France, n'est pas positive par rapport à la variété des couleurs, à la variété... Je regrette la perte des accents. Je regrette de ne pas avoir assumé mon accent occitan, mais il n'était pas d'origine, parce que moi, c'est l'occitan du Nord. Et l'accent auvergnat, il est très mal perçu, il est très mal transcrit.
Mais comment vous expliquez cette perte, Alain Rey ?
Des quantités d'influence, c'est l'unification jacobine après l'unification royaliste, c'est le fait que les gens ont appris le français alors qu'il y avait une minorité qui savait le français jusqu'à la guerre de 14, c'est le brassage des populations, c'est la puissance des médias. Tous ces facteurs-là sont des facteurs qui relèvent de la sociologie.
Ouais. Mais il y a eu chez vous un travail conscient, en tout cas, dans cette perte d'accent ou pas ?
Oui, il y a eu... conscient au début, inconscient à partir du moment où j'ai repris un accent antérieur. Parce que quand on a des histoires individuelles un peu compliquées, ce qui est le cas de presque de la majorité des Français, je suis né en Auvergne, j'ai passé mon enfance dans la région parisienne, je suis reparti dans le sud de la France ensuite, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence et à Clermont-Ferrand, c'est pas du tout le même accent, mais dans les deux cas, il y a un substrat occitan, mais différent. Et j'ai jamais pris l'accent auvergnat, par exemple, qui pour moi était très négatif, parce que les Gosses, en particulier, ont des jugements hiérarchiques violents. Et l'accent du Cantal, par exemple, nous paraissait totalement ridicule. Ouais. Quand on disait « pop-chietou, pop-papen », porte pas peine, que ça veut dire, qui est une très belle expression, ne pas porter peine. Alors ça, c'est un autre sujet, ce sont les expressions régionales. On avait le sentiment que c'était une langue qui était mal notée au point de vue, au point de vue social.
Philippe Boulan-Mareuil, justement, il y a des accents qui valorisent, il y a des accents qui stigmatisent.
Tous les accents ne sont pas égaux, il y a des accents qui sont valorisés. Pour le coup, l'accent méridional a plutôt un capital de sympathie qui le fait juger beau, estimé sympathique par rapport à d'autres accents du Nord, même si un film récent a pu redonner quelques lettres de noblesse à un accent dévalorisé. L'accent méridional ou basque, est un des rares qu'on peut entendre sur les ondes. En tout cas, on entend nettement moins d'accents du nord-est, d'accent alsacien, d'accent ch'ti.
Il faut bien le, radio, il faut bien le constater, ouais, absolument. À l'arrêt.
Oui, ce que je voulais faire remarquer, c'est que c'est tellement relatif, cette notion d'accent, que quand on entre à l'intérieur d'une communauté qui, pour les gens de l'extérieur, est à peu près homogène, on va dire l'accent méridional, l'accent du sud de la France, on a des oppositions qui sont vécues comme elles-mêmes hiérarchiquement notées. Les gens d'Arles, par exemple, qui ont un accent provençal qu'ils estiment être l'accent pur de la Provence, n'ont que mépris pour l'accent marseillais. Mmh. Et ça, il suffit d'en parler à quelqu'un du Félibre, par exemple, qui parle provençal, le provençal d'Arles, et qui trouve que le français régional de sa ville est magnifique, alors que le français régional de Marseille est hybride, lamentable et vulgaire. Mmh. Et ça, je crois que dans toute région, on va avoir aussi ces petites oppositions, comme il y a des oppositions entre les patois, parce qu'il n'y a rien de tel que l'hostilité entre les voisins.
Mmh. Est-ce qu'on a pu établir une carte des accents en France, avec toutes leurs modifications selon les territoires, parce que c'est extrêmement fin, justement. Il suffit de faire un kilomètre pour déjà être dans une nouvelle sonorité.
Il y a déjà l'atlas linguistique de la France, qui est évidemment fondée sur des critères qui sont plutôt lexicaux, mais où la phonétique est tout de même décrite avec des constantes phonétiques dont les frontières sont bien marquées, c'est les isoglosses. Et ça, bon, on a déjà des données qui sont très nombreuses, mais elles sont difficiles à interpréter, parce que en plus c'est très évolutif, et que si c'est fait il y a 30 ou 40 ans, ça n'est plus.
Et alors, on a une somme d'accents déjà ? On a à peu près un nombre d'accents qui a été admis, ou c'est très compliqué à définir là aussi ?
Ce ne sera pas des accents, ce sera des traits phonétiques. Alors, construire l'idée de l'accent, à mon avis, c'est sortir du scientifique. Je m'adresse aux phonéticiens. Je crois que quand on décrit phonétiquement un parler, c'est un parler individuel. Ensuite, on peut faire des traits communs dans une région, dans une zone géographique. Mais on sait très bien qu'il y a des interférences, des variations et des populations qui changent. On entre dans le domaine extrêmement flou et difficile de la sociolinguistique. Et là, on est en perpétuelle recherche. Mmh. Mais il y a beaucoup de travaux là-dessus, bien
Philippe
sûr.
Philippe Boulan-Mareuil.
Oui, l'atlas de la langue française remonte maintenant à plus d'un siècle.
Il y a encore eu des cartes faites il n'y a pas très longtemps. C'est pas...
Oui, non, mais on continue à en travailler. Après, savoir combien d'accents, c'est extrêmement difficile. Les isoglosses, donc, ce sont des lignes qui départagent différentes prononciations, différentes dénominations d'une réalité. Après, toutes les isoglosses ne coïncident pas. Il y a l'évolution qui est en cours, qui fait qu'on peut attribuer en partie un accent à un contact de langue, à un substrat, par exemple l'occitan, pour l'accent méridional, mais l'occitan n'explique pas tout. Il y a des oppositions et en occitan qu'on ne retrouve pas typiquement en français méridional. Il y a l'intonation qui est mal documentée, peut-être parce qu'elle est mal transcrite dans la langue. Elle demande tout un outillage.
C'est un travail immense, hein.
Oui, parce que justement, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure, l'étymologie de accent. C'est vrai que quand on parle du chant accentus, là, on est dans le problème de l'accent de phrase. Et l'accent de phrase, il est décrit de manière assez incertaine et jamais très complète. Par exemple, ce qu'on appelle l'accent des banlieues, c'est essentiellement un accent de phrase. Et je trouve que s'il y avait plus d'accents tolérés en France, sur le plan de la réceptivité, de la compréhension, de l'ouverture à l'autre, on aurait une langue qui serait plus riche, plus agréable et plus chantante. Si nous entendions aujourd'hui parler les gens du XVIIe siècle, on rigolerait et on aurait tort, parce qu'ils avaient une langue qui était avec des intonations plus fortes, avec des accents de hauteur qui étaient certainement beaucoup plus importants. Et il y a eu tout un travail d'aplatissement. Moi, je trouve qu'il y a eu un rouleau compresseur.
Ouais. C'est la question de Roger aussi, qui nous demande si avec la mondialisation, les accents ne sont pas appelés à se diluer dans l'espace et dans le temps.
C'est un risque, mais il n'y a pas que les accents qui se diluent. Ce sont les mœurs, les différences de comportement.
Mais puisque c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui, Philippe Boulan-Mareuil.
Il y a une certaine unification des accents qu'on peut noter, en tout cas dans un pays très centralisé comme la France, dans les différentes variétés d'oïl notamment. Après, le développement des échanges, l'urbanisation favorise aussi de nouveaux accents, de nouveaux mouvements et éventuellement donc, l'émergence de cet accent dit de banlieue qui semble émerger autour des grandes villes.
Les accents régionaux, donc, avec Alain Rey et Philippe Boulat de Mareuil. Et dans un instant, je vous invite à passer un peu de temps chez Madame de Néandertal.
You gotta know, I'm feeling love, made of gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love, I said it, you gotta know, I'm feeling love, you gotta know, I'm feeling to be my warden of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it, and you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on remains before it's begun. The hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes. What it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I'll never love another one, another you. It's gotta be.
Chet Faker avec Gold sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
L'histoire commence le jour de la rencontre entre une créature inconnue et un groupe de Néandertaliens partis pour une cueillette loin de leur grotte. Pour la première fois de leur existence, les Néandertaliens vont se retrouver nez à nez avec Homo sapiens. Un face-à-face qui va bouleverser l'histoire de l'humanité en nous laissant au passage quelques gènes en souvenir. Entre chasse aux mammouths, taille de silex et scènes d'amour viril, Madame de Néandertal est un journal intime qui raconte cette histoire préhistorique très drôle et très instructive. Un roman publié aux éditions Nil est écrit à quatre mains par la préhistorienne Marilène Patomatis et l'auteur et éditrice Pascal Leroy qui était mes invités le 1er mai dernier. Pascal Leroy nous présentait d'abord l'aventure qui a donné naissance à ce projet drôlatique et scientifique.
C'était un projet qui était resté un peu en suspens, parce que moi, je ne suis pas du tout romancière, donc d'écrire un roman, une fiction, c'était très difficile pour moi. Et j'ai dit, ben voilà, ça serait vraiment l'occasion, si je rencontrais quelqu'un qui a une plume. Et puis voilà, le hasard, mais il n'y a pas de hasard, comme elle dit Pasteur aux esprits préparés, a fait que des amis en commun, on s'est retrouvés, on s'est bien entendus. Et j'ai trouvé en Pascal vraiment la personne qui a mis de la chair sur les os des Néandertaliens. Et ça, ouais, c'était important pour moi. Voilà, c'est une vraie écriture que je n'aurais pas pu faire. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis une essayiste. Et là, vraiment, avec des inventions de sa part, avec des choses très drôles, des dialogues. Voilà. Donc, c'était, pour moi, c'est une aventure, ouais, formidable, parce que ça m'a permis de proposer autre chose au lecteur sous une forme très drôle.
Et c'est franchement très réussi, Pascal Leroy. Donc, vous avez pris la chaire scientifique auprès de Marie-Hélène Patoumatis pour créer cette histoire, hein, c'est ça?
J'ai découvert un monde que je connaissais très mal, j'ose le dire, et elle m'a raconté tout plein d'histoires que j'ai trouvées passionnantes. Et puis, je me suis retrouvée face à des gens dont je me suis dit, donc les Néandertaliens, ah, oui, me disant... Finalement, je pense qu'on a des points communs. Et donc, ça a été ça le point de départ, d'essayer de montrer non seulement que ce n'était pas du tout les bas du front qu'on nous a présentés pendant des années, mais que c'était des hommes assez évolués, des hommes et des femmes. Les femmes étant très présentes et étant vraiment, j'allais dire, le cœur de la vie là-bas. Et voilà, j'ai eu envie d'aviver les échos qu'on pouvait trouver entre eux et nous.
Ouais. Et puis, vous utilisez beaucoup l'humour, ce qui est une excellente porte d'entrée, justement, pour lire cette histoire et apprendre aussi, hein, sur cette époque.
Oui. Moi, j'adore l'humour. Je pense qu'on fait passer beaucoup de choses avec l'humour. Marie-Hélène est tout à fait d'accord. Marie-Hélène est une grande scientifique qui accepte de se départir de son esprit de sérieux parce qu'elle aurait peur d'avoir l'air moins intelligente. Au contraire, ouais, elle a compris qu'on pouvait être très intelligent et très drôle, et très scientifique, et très rigoureux. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et je pense que voilà, par l'humour, on peut décrire tout un monde qu'on croyait totalement disparu.
Et c'est vraiment loin d'être un détail, hein, Marie-Hélène Patoumatis, parce, oui, que c'est une voie d'accès très importante aussi, hein, pour la connaissance.
Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment pour toucher les gens, parce que c'est toujours la même chose quand on fait des essais ou des conférences, les gens qui viennent, ils sont déjà intéressés. Oui. Et là, l'objectif, c'était aussi d'intéresser ceux qui n'iraient pas écouter une conférence sur les Néandertaliens, de les amener par ce côté de l'humour, et justement à s'intéresser. Donc c'est très fort, et surtout là, avec Pascal, ce qui était important pour nous. Et là, on va faire féminisme, mais tant pis, on y va à fond. C'est aussi les femmes, parce qu'il y en a assez aussi. Des fois, vous savez, vous me connaissez, Mathieu, j'ai souvent des coups de gueule. Et franchement, c'est toujours les hommes. Préhistorique, les hommes peignent Lascaux, les hommes avec un petit H, hein,
oui, oui,
taillent,
oui,
des silex, etc. Alors la femme a fait quoi? Ben, elle est la grotte, quoi. Alors que rien, mais rien de rien, ne prouve en préhistoire, on n'a aucun argument qui dit que les femmes restaient à balayer la, oui, caverne.
Mais là, elles prennent le pouvoir même sur la couverture du livre, hein, parce qu'on voit une néandertalienne extrêmement costaude. On dirait une nageuse allemande avec un petit néandertalien juste à côté, mais tout rikiki, hein. C'est presque
je
les dessins du
monde. Je pense même que c'est un petit sapiens.
Voilà, là, il y a une autre idée encore, hein, effectivement. Il faut réhabiliter non seulement la femme, mais aussi Néandertal.
Mais là, c'est le sapiens. Là,
par rapport à Homo sapiens, effectivement. On va en parler avec vous dans un instant. Bon, ça reste votre chouchou toujours quand même, Néandertal. Hein. C'est même votre grande passion. Qu'est-ce qu'il a de plus que Cro-Magnon, celui-là, franchement?
Ben, ce qu'il a de plus, non, c'est pas parce qu'il est petit viril, hein, je dis tout de suite que les lecteurs se moquent de moi avec petit viril. Non, ce qu'il a, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait toute une part aussi d'inconnu, de mystère. C'est-à-dire que justement, par des comportements qui sont différents des comportements des sapiens, des Cro-Magnons notamment et tout, bon, il était intéressant par ce côté. Et aussi parce que pendant très longtemps, maintenant évidemment, ça change énormément, mais avant, pendant très longtemps, on le considérait comme disait tout à l'heure Pascal, très joliment, bas du front, quoi. Et donc,
Bourrelet, oui.
Et bas du Bourrelet, exactement. Je veux dire, donc, c'est vraiment quelque chose qui était aussi intéressant d'aller voir de près ce qu'il en était, d'aller aux sources, c'est-à-dire aux faits archéologiques.
En tout cas, il revient vraiment sur le devant de la scène, Néandertal. On le reconsidère. C'est vrai que cette image de bourru, de brute épaisse, maintenant, quand même, tente à s'estomper. Hein. On est quand même d'accord avec ça.
Tout à fait.
Vous écrivez que, d'abord, c'est non seulement l'archétype de l'homme préhistorique, Néandertal, mais également de l'homme du futur. Pourquoi ?
Bah, c'est-à-dire que ce n'est pas moi par les faits archéologiques, c'est un petit peu la tendance que je perçois maintenant autour de moi. C'est-à-dire que beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine de la nutrition, du mode de vie, le style, je ne sais pas, il fait un peu pacifiste, écologiste. Mm-hmm. Enfin, et donc, on lui a affublé des... Je dis vraiment le terme esprit affublé, parce que c'est, sans vraiment non plus de raison, des qualités ou prétendues telles de nous, enfin, de ce qu'on souhaite pour le futur. Je pense qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Mmh. Et eux, les Néandertaliens, ils étaient différents, ni inférieurs ni supérieurs à nous, mais différents, voilà, ils vivaient à l'époque des Néandertaliens. Et nous, il ne faut pas qu'on projette des Néandertaliens. Il faut peut-être qu'on projette certaines choses que nos ancêtres, Néandertaliens et d'ailleurs aussi les Cro-Magnons, faisaient peut-être par rapport à la nature et tout ça, mais pas retourner en arrière pour projeter quelque chose dans le futur.
Enfin, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un brûlé qui va nous pousser au-dessus des yeux. Non, ça, c'est,
non je pense qu'on va plutôt vers la gracilisation de toute façon.
Voilà. Et... Donc ça va beaucoup changer. Pascal Leroy, comment est-ce que vous avez écrit ce livre justement par rapport à la science, par rapport à la vérité préhistorique? Vous êtes accordé beaucoup de liberté ou pas? Au contraire, Marie-Hélène Patoumati, c'était là pour vous surveiller.
Elle me surveillait attentivement, notamment dans tout. Alors, elle m'avait donné le cadre. Enfin, voilà, elle m'a dit, voilà, on est en moins 30 000 dans la steppe des Balkans. Ils sont par petits groupes de 30. Ouais. Voilà. Après, on a imaginé une histoire. Et quand j'écrivais, je sais que son principal souci, vraiment, était que je ne fasse pas passer Néandertal pour un crétin. Elle dit, ouais. Ah non, tu peux pas dire ça. Ah non, on va penser qu'il était idiot. Ouais. Et donc, elle adore Néandertal. Mais elle a quand même une passion que je ne dirais pas trouble, ouais. Mais quand même.
Oui, oui. En tout cas, là, votre personnage principal, qui est la grande, mm-hmm. hein, c'est vraiment elle qui écrit ce journal, c'est également une amoureuse, comme Marie-Hélène Patoumatis pourrait l'être par rapport à Néandertal,
absolument.
D'ailleurs. Hein. Il y a vraiment une relation très intime, très forte. Hein.
Oui, oui, c'est une femme sentimentale qui est ouais. en même temps une intellectuelle et qui tient ce rôle d'intellectuelle du groupe, ce qui tendrait à dire que les autres sont quand même un peu moins intelligents que certains prétendent ouais. et qu'elle est un peu au-dessus du lot, ce qui n'empêche pas d'être très sentimentale, voire parfois un peu guimauve.
Oui, oui, guimauve. Et puis acceptant facilement la bagatelle, hein, on le voit d'ailleurs avec sa rencontre avec...
Elle n'est pas la seule.
Mais il se passe des choses dans les grottes.
Il y a des trucs, il y a des trucs.
Voilà, c'est les premières backrooms finalement de l'époque. Ça se passe à l'époque de Néandertal. Quelle liberté également pour vous, Marie-Hélène Patoumatis, parce que là, évidemment, elle écrit son journal, mais les Néandertaliens communiquent ensemble, ils se parlent. On se dit, mais à cette époque, jamais, ils n'ont échangé aucun mot.
Ça, pourquoi vous dites ça, Mathieu? Moi, je pense qu'ils ont tout à fait, ils avaient tout à fait un langage, qu'ils n'aient pas le même vocabulaire, la même l'étendue de vocabulaire, les mêmes syntaxes, la même grammaire, évidemment. Mais je pense qu'ils avaient vu les comportements et tout. Je relisais le roi Gouran, qui avait beaucoup travaillé sur le langage. Bon, il l'a déjà dit il y a plus de 20 ans. Je veux dire, il a vu les comportements et vu même l'outillage lithique, la taille des pierres, etc. Ça montre qu'il y avait tout à fait un langage. Et donc, je ne vois pas pourquoi, de quel droit, puisque rien ne le prouve le contraire, que ne pouvait pas avoir des dialogues et des dialogues tout à fait de l'ordre domestique, si j'ose dire, de faire des courses ou du domaine sexuel, etc. Donc je pense que là, on s'est autorisé, et j'en étais tout à fait d'accord quand Pascal allait sur ce chemin, de faire des discours, des dialogues qui, en fin de compte, soient très libres, puisqu'on le fait bien en histoire, par exemple, on le fait très bien. Je veux dire, est-ce qu'on n'était pas là pour tenir la chandelle quand Henri IV parlait à la reine Margot? Donc je veux dire, on peut s'autoriser parce qu'on est aussi dans un roman. Et
sauf que là, à cette époque-là, il n'y a pas le problème de savoir s'il y avait un langage articulé ou pas.
Mais
alors
je crois
que pour Néandertal, c'est plus
bien,
en discussion.
Mais non, mais je
même.
Pense que maintenant, ce n'est plus, justement, même au niveau scientifique, ce n'est plus le cas. Je pense que maintenant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un langage. En plus, quand même, on a, au niveau génétique, montré qu'il y avait des gènes qui sont importants pour le langage chez nous, présents chez nous, qui étaient déjà présents chez Néandertal. Donc, je pense que quand même, restons tranquilles en pensant qu'il y avait un langage tout à fait articulé.
Ce qui vous arrange bien, Pascal Leroy, pour l'écriture des dialogues dans ce livre, finalement.
Ils sont même assez bavards.
Oui, ils sont très, très, très bavards. Ils ont une vraie
réflexion. Ils ont des choses
à
dire. Voilà, oui.
Absolument.
En fait, l'idée dans ces dialogues, c'était justement de montrer qu'ils avaient une réflexion, puisque toute leur vie quotidienne montre quand même qu'il y avait des capacités intellectuelles dont ils se servaient. Donc, pourquoi pas imaginer qu'ils avaient une vraie pensée et puis des rêves, des aspirations, qui rêvait un monde différent, qui pensait peut-être à certains progrès. Enfin,
ouais. Voilà. Et la réflexion majeure quand même du livre, c'est l'autre.
Oui.
C'est cet étranger, cette créature qu'on ne connaît pas. Comment un jour, et ça lui est un vrai bouleversement, comment ces hommes, on s'imagine quand même, se sont retrouvés face à des créatures qui avaient quelques similitudes, mais qui étaient quand même très différentes d'eux.
Non, mais moi, je pense que c'était ça. Puis d'ailleurs, c'est tout aussi, si j'ose dire, vraiment le fond, le cœur de l'ouvrage. Parce que c'est quand même, moi, ça m'a toujours interpellée. C'est clair que vous imaginez, vous êtes tout seul sur un territoire très, très vaste pendant des centaines d'années. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on vous a raconté, c'est-à-dire tout ce qu'on se raconte de génération en génération, où il n'y avait personne d'autre, quoi. Il n'y avait que des Néandertaliens. Et là, d'un seul coup, quoi, c'est quand même énorme. Parce que nous, comme je dis toujours, on est préparés à avoir des petits bonhommes verts qui viennent de je ne sais où. On nous dit, c'est possible.
Sauf que le jour où ça arrivera vraiment, je pense que on sera probablement dans le même voilà. état. Ouais.
Mais de ce que là, mais on est quand même préparés. Alors que là, vous imaginez, ouais. c'est quand même quelque chose qui est énorme. Toute leur cosmogonie est complètement bouleversée. Ouais. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui a dû être très fort, qui s'est passé.
Ouais, donc c'est évidemment ce moment crucial de cette histoire hein, qui est là, en trame dans ce livre, avec ces créatures donc, que vous appelez...
Les zigs.
Les zigs et les ziguettes pour
les
filles.
Les zigs et les ziguettes, voilà. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de mots et ils ne sont pas très très sûrs que ce soit un homme comme eux.
C'est ça.
Parce qu'il est beaucoup plus grand, il est beaucoup plus fin,
la
il
couleur
a la
de
face
la peau n'est pas
beaucoup
la même,
plus plate, hein. La couleur de la peau n'est pas la même. Et c'est un choc. Et comment ça s'appelle? Et ils hésitent à appeler ça un homme, donc il faut trouver autre chose. Et comme il y en a une qui rêve et qu'on lui souffle que ça pourrait être un zigoto, il l'appelle voilà. Zig.
Alors, il n'y a pas d'unité de lieu ou de datation, hein, évidemment, dans le roman. Mais évidemment, comme il y a cette rencontre avec Homo sapiens, on sait qu'on est aux alentours de moins 30 000.
Marianne voilà, on est entre, voilà, on va dire 36, entre 36 ouais. et 30 000. Bon, disons que moi, je pense qu'il y a des endroits plus propices à ces rencontres parce que c'est quand même... Il y a des endroits comme le côté de la France et tout, me paraît plus hypothétique. Là, c'est pour ça que pour moi, je le vois plus dans les Balkans. Voilà. Ouais. Mais c'était pas l'importance. Ça a pu se produire, c'était ça qui était intéressant.
Vous me disiez, hors antenne, le rêve absolu, ce serait de découvrir un néandertalien hibernatus, c'est-à-dire parfaitement conservé dans la glace, à l'instar des mammouths. Ce serait absolument extraordinaire, parce que pour l'instant, on n'a que des ossements. Mais là, si on découvrait vraiment, ce serait possible selon vous?
Mais oui, vous rendez compte, si on le, ça serait possible, tout à fait. Mais on peut espérer. Bon, c'est vrai qu'en Sibérie, à l'époque des mammouths et tout, on verrait plutôt trouver un Cro-Magnon.
Ils sont allés à cet endroit.
C'est un peu, ils sont au sud de la Sibérie. Je suis pas sûr qu'ils soient montés, mais on ne sait jamais. Ouais. On peut toujours. Mais c'est vrai quand même, ça serait super. Vous imaginez, on verrait, des superbes tatouages avec des très beaux dessins figuratifs, ouais. et puis des dreadlocks comme a inventé Pascal.
Oui,
ça serait génial.
Ouais. Ils avaient des problèmes de cheveux parce qu'évidemment le démêlage était très très compliqué
façon,
à cette époque.
Le métabolisme est le métabolisme d'être humain, c'est-à-dire que les cheveux poussent, hein, il faut bien faire quelque chose de ses cheveux. Donc moi, je vois pas ça aussi, c'est une vision. Et ça se trouve, ils avaient des super coiffures sophistiquées avec des morceaux de bois, avec du végétal, avec tout.
Ah, voilà. Mais les femmes sont coquettes d'ailleurs, elles se maquillent. La rencontre d'ailleurs avec Homo sapiens. Hein,
les femmes ne sont pas seules à être coquettes. Les hommes se maquillent aussi, se tatouent parce que c'est des signes de reconnaissance. Selon les groupes, les appartenances. Et puis oui, enfin, on les décrit toujours, on imagine qu'ils sont sales au fond de la grotte où effectivement il n'y avait pas tout le confort moderne, mais ça n'empêche pas que de temps en temps, ils trouvaient que ça finissait par sentir pas très bon, qu'ils allaient se laver à la rivière, qu'ils changeaient leur peau, leurs vêtements peau, je veux dire. Et voilà, donc oui, elles ont quand même de temps en temps des petits soucis de manucure. Oui. Ils font des fêtes, ils s'habillent, ils se décorent.
Ouais. Mais ça sent un peu la hyène quand même dans la grotte. Hein. Vous dites que la peau de bête, il y a un moment où ça quand même...
Rentrer dans une chambre d'adolescent moderne, ça sent la même chose.
C'est agréable. Vous avez des enfants?
J'ai eu Pascal un fils.
Ben, il sera ravi, le pauvre.
Qui a passé l'âge de sentir la hyène.
J'espère qu'il n'écoute pas l'émission. Il va être traumatisé.
Mais c'est vrai, je pense que tout est possible. Par exemple, on a trouvé beaucoup de pigments. Donc, c'est pas seulement. Ouais. Donc, quand on parle maquillage, évidemment, c'est à partir des pigments, il y en a plein. On en trouve plein qui sont dans les grottes et qui ont été apportés par les Néandertaliens, qui ne sont pas du tout tombés. Donc, voilà, ils en faisaient quelque chose. Quoi. Alors, je trouve que voilà, l'imagination, Pascal a mis tout ça en scène, et tout ça, c'est plausible. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est drôle et plausible.
Alors, est-ce que justement, parce qu'en lisant, on se pose la question, il y a un certain nombre d'exemples sur les rituels de passage, en particulier sur les jeunes filles qui, lorsqu'elles deviennent jeunes femmes, justement, là, dans le roman, quittent la grotte, quittent leur mère pour aller vivre dans une autre tribu. Qu'est-ce qu'on en sait, ça?
Alors justement, ça c'était une donnée très intéressante, relativement récente, qui a été faite sur El Cidron, un site en Espagne où on a comme ça un groupe de Néandertaliens. On a fait l'ADN ancien, on a eu la chance, et on a vu les liens de parenté. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, donc ils étaient tous, ils en avaient 11, et on a vu que ces liens de parenté, tous les hommes étaient apparentés et étaient vraiment du cru, si je veux, et que les femmes étaient venue d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est elle, la locutrice d'ailleurs, je pense que pour le langage, c'était très important, c'est elle qui se déplace. Donc ça, au niveau des témoignages archéologiques, là, grâce à l'ADN, on peut montrer, bon, en plus, c'est vrai qu'on sait que c'est quand même quelque chose qui est très, très courant, hein, que c'est vraiment les femmes qui quittent. Et donc, ça a été montré aussi pour le néolithique, il y a eu des travaux récents. Donc, c'est ça qui était intéressant. Donc, à partir d'une donnée quand même montrée, en tout cas dans ce site, peut-être que tous les groupes néandertaliens, ce n'était pas comme ça, mais toujours est-il que dans certains, ça a pu être ça.
Ça a pu se passer.
Et donc, voilà, et c'est super, on peut mettre ça en scène. Voilà. Et puis, Patrick, là, donc Pascal le remet dans en situation. Voilà,
oui, mais c'est une scène très triste, d'ailleurs, poignante. On voit cette fille quitter sa mère pour aller dans une autre
affreux,
tribu.
C'est affreux, finalement, parce qu'elles ne sont pas sûres de se revoir. Ça paraissait normal à l'époque, probablement, mais ça n'empêchait pas d'avoir un petit pincement au cœur, étant donné que, par exemple, notre héroïne, elle, n'a jamais revu sa mère. Ouais. Par exemple.
C'est quoi l'espérance de vie moyenne, Marie-Hélène Patoumatis ? Vous dites, là, il y a le plus vieux de la tribu, dans le roman, il a 46 saisons, ce qui est presque un record, déjà. Hein.
Oui, c'est ça, on tourne autour de 50, vraiment, c'est quand même un grand maximum. Et malheureusement, si j'ose dire, en tant que femme, là, la survie, c'est on a quasiment pas de squelette qui dépasse 35-36 ans. Ouais. Donc, c'est vraiment très court pour les femmes. Les hommes, c'est à peu près ce qu'on avait d'ailleurs les périodes historiques.
Avec beaucoup de mortalité infantile.
Et puis, surtout, probablement, la mortalité en couche aussi. C'est ça qui est intéressant. Et là, ce qui était bien aussi, c'est de montrer que ces femmes sont, comme je disais tout à l'heure, des locuteurs, mais sont aussi, elles transmettent aussi les cultures. Parce qu'en fin de compte, comme Pascal le précisait tout à l'heure, il y a vraiment une seule chose dont on est sûr, c'est l'enfance sort de la mère, quoi. Et donc, c'est le lien très fort entre la mère et la fille, donc ou le fils. Et donc, la transmission est quand même très... Donc, moi, j'appelle ça plutôt matrilinéaire que matriarcat, parce qu'il n'y a pas de dominance de la femme sur les hommes. Moi, je ne crois pas à ces sociétés-là. Mais par contre, matrilinéaire. Oui. Et donc, ça, c'est très, très important. Donc, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à ces questions-là.
Oui. Et il y avait beaucoup d'éclopés aussi, au sein des grottes, évidemment.
On imagine que pendant les chats, casque, en glissant, voilà, que tout ça, ça avait plein de plaies, de bosses, d'entorses, de bras en moins, de dents pas très chouettes. Voilà, moi, de temps en temps, c'est vrai que j'avais, quand j'imaginais le truc, je me disais, mais c'est la cour des miracles.
Absolument. Ouais. Alors, avec des remèdes, parce qu'on voit aussi l'utilisation des plantes, avec une pharmacopée assez élaborée pour les Néandertaliens. Est-ce qu'ils pratiquaient la chirurgie ? Parce que quand vous parlez d'amputation, on se dit, est-ce qu'ils pratiquaient eux-mêmes les amputations ou pas ?
Alors là, c'est probablement qu'il devait y aller au silex, ça c'est sûr. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des preuves, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Néandertaliens qui montrent ces amputations, entre guillemets. Mais c'est surtout à partir de ça aussi qu'on a vu qu'il y avait un système qui était basé sur la solidarité et l'empathie. Puisque en fin de compte, un handicapé de naissance, par exemple un garçon avec un bras en moins, comme on a à Chanidar, et qui va mourir vers 45 ans, c'est-à-dire qu'il a été totalement pris en charge donc par le groupe. Donc il y a vraiment cette solidarité. Vous parliez des plantes, comment on le sait ? Parce que justement là aussi à Chanidar, il y avait un squelette comme ça qui a été trouvé, des pollens de fleurs, etc. Donc on avait dit un peu romantique au départ, les gars ils, à un moment l'enterrement avaient mis des fleurs. Non, en fin de compte, plus prosaïquement, et c'est très important, c'est que c'était des plantes médicinales. Donc probablement il était malade, etc., ou blessé, et il était soigné par ces plantes, et c'est pour ça qu'il y a les pollens de ces plantes. Donc vous voyez, il y avait tout ça. Et le sentiment quand ils enterrent leur mort, parce qu'ils enterrent leur mort, et là, on a même des exemples à Ferracci où ils ont enterré un fœtus ou vraiment tout jeune nouveau-né, mais peut-être même un fœtus. Donc c'est quand même, ça montre qu'il y avait tout ce que Pascal met en scène d'une façon
Le corps du mort est conservé pendant 4-5 jours, c'est ça, avant d'être enterré, donc près vraiment de l'entrée de la grotte, avant d'être éloigné. Et puis là, effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre de plantes, de peaux qui sont posées sur le corps pour éviter évidemment les odeurs et d'attirer aussi les animaux.
Les prédateurs.
Et ensuite, il y a du cannibalisme. Il y a une scène de cannibalisme qui était apparemment monnaie courante. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé avec vous, Marilène Patou-Matisse. Il y a une des protagonistes qui dit « Bien que très émue par cette marque d'affection envers son fils qui venait de mourir, Brune a émis une réserve. Je veux quelque chose de simple et rapide et qui n'abîme pas le corps de mon Jim, donc son fils. Pour dire autrement, je préférais qu'on ne le démembre pas. » Chouette.
Mais oui, mais l'endocannibalisme, on en a parlé. C'est vrai que c'est quand même un rite funéraire qui a été pratiqué depuis très longtemps et jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que là aussi, je souhaitais un peu dédramatiser ce côté-là, parce que arrêtons de pousser des cris d'orfraie, on fait des choses pires. Donc c'est pas de tuer un homme qui est grave, c'est de manger, c'est de le tuer. Donc je veux dire, là, je pense que c'est un rite funéraire qui est tout à fait acceptable.
Pascal Leroy et Marilyn Patou-Matisse, donc autour du livre Madame de Néandertal, un livre publié aux éditions Nil. Et Catherine Ringer, nouvelle version d'Idées Noires sur France Inter. Voilà, c'est terminé pour ces rediffusions de La Tête au Carré. Merci à Patrick Henry qui était avec nous à la technique. On se retrouve lundi en direct avec toute l'équipe. D'ici là, passez un excellent week-end à l'écoute de France Inter. Fabrice Ouel dans un instant avec Affaires Sensibles.